إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، chers auditeurs, nous commençons aujourd'hui une nouvelle série de cours au sujet de la croyance des quatre grands imams de l'islam. Comme vous le savez, apprendre la croyance authentique est d'une importance capitale pour le musulman. Et ce car la croyance représente la base et le fondement sur lesquels repose la validité de l'ensemble de tes œuvres. C'est-à-dire que celui dont la croyance est corrompue et dont la croyance est en opposition à la croyance authentique, il risque alors de voir l'ensemble de ses œuvres rejetées. C'est pour cela que le musulman doit donner une grande importance à ce sujet, et nul parmi nous ne doit négliger l'apprentissage de la croyance authentique. Et cette croyance, elle ne s'apprend pas de manière anarchique, mais elle a des sources desquelles elle doit être puisée, qui sont les textes du Coran et de la Sunna authentique. Le domaine de la croyance est donc un domaine que l'on appelle en arabe « tawqifi », c'est-à-dire un domaine qui est limité au texte. Aucune croyance ne peut être affirmée si ce n'est avec une preuve du Coran ou de la Sunna authentique. Et la croyance ne peut en aucun cas être basée sur les avis ou les opinions de quiconque parmi les hommes, mais seulement, comme on a dit, sur les textes du Coran et les textes de la Sunna. Et c'est sur cette voie qu'ont cheminé nos pieux prédécesseurs, rahimahumullahu ta'ala, parmi les imams de l'islam, depuis les premiers siècles, et ce jusqu'à nos jours. Et parmi eux, parmi ces imams, il y a les quatre grands imams auxquels se réfèrent la majorité des gens dans le monde musulman, et auxquels s'affilient les partisans des quatre grandes écoles juridiques, et qui sont Abu Hanifa, Malik, Al-Shafi'i et Ahmed, rahimahumullahu ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur fasse à tous miséricorde. Ces quatre grands imams ont certes eu des opinions divergentes sur nombre de questions subsidiaires liées à la jurisprudence, liées au fiqh, car ces questions sont des questions sujettes à l'effort d'interprétation, à l'effort de réflexion, et ce sont des questions sur lesquelles la divergence peut être admise. Toutefois, il est important de savoir que ces mêmes imams étaient tous unanimes sur les fondements de la croyance de manière générale, comme on va le voir durant ces assises, incha'Allah ta'ala. Et il est très surprenant de voir aujourd'hui certaines personnes affiliées à la prédication appeler les gens à se référer exclusivement à une école de jurisprudence en dehors de toutes les autres. Et certains parmi eux prétendent que ceci permettrait d'unir la communauté et d'éviter les divergences. Et nombre d'entre eux omettent ce qui est plus important et qui est d'appeler les gens à la croyance authentique. Cette croyance, puisée des textes du Coran et de la Sunna, qui est la croyance de ces quatre imams sur laquelle ils n'ont pas divergé de manière générale. Il est donc surprenant de voir ces prédicateurs appeler les gens à s'unir et à ne pas diverger sur des questions sur lesquelles il est admis que l'on diverge, et sur lesquelles la divergence d'opinion ne doit en aucun cas être une cause de discorde et de division entre les musulmans. Et en parallèle de cela, ces mêmes prédicateurs tolèrent, par leurs paroles ou par leurs agissements, la divergence dans la croyance, alors que la divergence dans le domaine de la croyance est inacceptable et inadmissible. Certains tolèrent cela de manière explicite, en considérant qu'il est permis aux musulmans de choisir ses références en matière de dogme, peu importe que celles-ci soient conformes ou non au texte du Coran et de la Sunna. D'autres considèrent ces questions comme étant des questions secondaires, voire même des questions sans importance, wal'iyadu billah. Et d'autres parmi eux tolèrent la divergence dans la croyance de manière implicite, comme par exemple en se taisant sur ceux qui s'opposent à la croyance authentique, voire même en collaborant avec des gens de toute tendance dans le prêche ou l'enseignement, sans faire de différence entre le soufi, le ash'ari, le maturidi, le khariji et autres parmi les partisans des sectes qui se sont égarés dans le domaine de la croyance et qui se sont opposés à la croyance des grands imams de l'islam. C'est donc pour cela que j'ai voulu que l'on étudie ensemble certains points de la croyance de ces quatre imams. Et pour ce faire, j'ai choisi que l'on étudie un court poème intitulé Al-Lamiyya, qui est un poème attribué à l'éminent savant Cheikh l'Islam Abul Abbas Taqiyuddin Ahmad ibn Abdil Halim ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Ce poème a été trouvé parmi des écrits et des manuscrits du Cheikh. On trouve inscrit sur certains d'entre eux la croyance d'Ibn Taymiyyah. C'est pour cela que ce poème lui a été attribué. Et ici, on pourrait se poser la question si ce poème est appelé la croyance d'Ibn Taymiyyah et qu'il a été attribué à Cheikh l'Islam, alors pourquoi avoir intitulé cette série de cours la croyance des quatre imams? La réponse est qu'à la fin de ce poème, après avoir mentionné plusieurs questions liées à la croyance, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit dans l'avant-dernier vers « هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد ينقل. » Ceci est la croyance de Shafi'i et de Malik, ainsi que de Abu Hanifa, puis de Ahmad, elle est transmise. On voit donc que cette croyance qui est exposée dans ce poème n'est autre que la croyance de ces quatre grands imams de l'islam. Et c'est ce qu'on va voir à travers cette courte étude, Inch'Allah ta'ala. Et aujourd'hui, on ne va pas commencer la lecture du poème, car j'aimerais tout d'abord que l'on se rappelle brièvement qui sont les quatre imams, et ce, à travers un court aperçu de leur biographie, Inch'Allah ta'ala. Donc le premier d'entre eux est l'imam Abu Hanifa, qui est le grand savant d'Irak, Al-Nu'man ibn Thabit, Al-Taymi, rahimahullah ta'ala. Il est né en l'an 80 de l'Hégire, et ce, alors que certains parmi les plus jeunes compagnons étaient encore en vie. Il apprit donc la science auprès d'éminents savants parmi les Tabi'in, parmi les disciples des compagnons, à l'exemple de Ata, ibn Abi Rabah, Amir al-Sha'bi, et d'autres. L'imam Abu Hanifa eut aussi pour élève de nombreux savants, comme Abu Yusuf al-Qadi, Muhammad ibn al-Hassan, al-Shaybani, ibn al-Mubarak, Waqi' et bien d'autres encore, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur fasse miséricorde. L'imam ibn Ma'in, rahimahullah ta'ala, a dit à son sujet, « Abu Hanifa est de confiance. Il ne rapporte du hadith que ce qu'il en a mémorisé, et il ne rapporte pas ce qu'il ne mémorise pas. » Ibn al-Mubarak, rahimahullah ta'ala, a dit à son sujet, « Abu Hanifa est le plus savant des gens. » Et al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, a dit, « Dans le fiqh, c'est-à-dire dans la science de la jurisprudence, les gens dépendent tous d'Abu Hanifa. » On voit donc à travers ces quelques paroles le rang immense de cet imam au sein de notre communauté, et plus particulièrement parmi les gens de science qui le reconnaissaient pour son grand savoir, sa piété et son ascétisme. Et l'imam Abu Hanifa, rahimahullah ta'ala, est mort en l'an 150 de l'Hégire. Le deuxième imam dont il est question lorsqu'on parle des quatre imams est l'imam Malik, qui est l'imam de Dar al-Hijra, c'est-à-dire la terre d'émigration, la ville de Médine. Il est Abu Abdillah, Malik ibn Anas, ibn Malik, ibn Abi Amir, al-Asbahi, al-Madani. Il est né en l'an 93 de l'Hégire, qui est l'année de la mort du noble compagnon, le servant du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Anas ibn Malik. Il débuta l'apprentissage de la science dès son plus jeune âge. Il étudia auprès de nombreux imams comme Nafi', qui est l'élève de Abdullah ibn Umar, radiyallahu ta'ala anhuma, ainsi qu'auprès de Zuhri, auprès de Yahya ibn Sa'id al-Ansari, et bien d'autres encore. Et il commença à transmettre le hadith alors qu'il était encore jeune, à tel point que même certains de ses chouyours ont rapporté de lui, comme Zuhri et Yahya ibn Sa'id al-Ansari. Ils étaient ses enseignants, mais ils ont aussi rapporté de lui le hadith. De même que de nombreux savants ont rapporté de lui, comme Abu Hanifa et son compagnon, Mohammed ibn al-Hassan al-Shaybani, al-Shafi'i, al-Thawri, al-Awza'i, al-Layth ibn Sa'ad et d'autres encore. L'imam Malik, rahimahullah ta'ala, est l'auteur du célèbre livre Al-Muwatta, dans lequel il a recensé un certain nombre de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que des paroles des compagnons et de leurs disciples, de même qu'il a mentionné dans celui-ci nombre de ses avis juridiques. L'imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, a dit à son sujet, « Quand on parle des savants, alors Malik est l'étoile, c'est-à-dire en raison de sa renommée et de son rang éminent. » Et il dit aussi, rahimahullah, « S'il n'y avait pas eu Malik et Sofiane ibn Uyayna, rahimahumallah ta'ala, la science aurait disparu du Hijaz. » Et l'imam al-Dhahabi, rahimahullah ta'ala, a dit, « L'imam Malik a des qualités dont je n'ai pas connaissance qu'elles soient réunies chez autre que lui. » Puis il mentionna les qualités en question. Et l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, est mort à Médine en l'an 179 de l'Hégire. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Le troisième est l'imam Shafi'i, qui est le grand savant, Abu Abdillah, Muhammad ibn Idris, al-Qurashi, al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala. Il est né à Gaza, en l'an 150 de l'Hégire, et il a grandi à la Mecque. C'est là-bas qu'il a pris la science très tôt, à commencer par la mémorisation du Coran, et il voyagea à Médine, où il a pris de Malik son livre Al-Muwatta, et il voyagea aussi vers le Yémen et vers l'Irak, à la recherche de la science. L'imam Shafi'i, rahimahullah, se démarqua des gens de son époque par sa maîtrise de la langue arabe, ainsi que son excellente compréhension et son suivi des textes authentiques, au point d'être surnommé Nasirul Hadith, celui qui fait triompher le Hadith. C'est-à-dire que lorsqu'il lui parvenait un texte authentique, il le faisait immédiatement prévaloir sur son opinion ou l'opinion de quiconque parmi les hommes. Et telle était la conduite de l'ensemble des grands imams de l'islam. Ils faisaient prévaloir la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la parole de quiconque parmi les hommes. De nombreux savants ont pris la science de l'imam Shafi'i et les grands imams de son époque étaient présents dans ses assises. À titre d'exemple, on peut citer Abu Ubaid, Al-Qasim ibn Sallam, Ahmad ibn Hanbal, Ishaq ibn Rahouyah, Abu Thawr, Al-Humaydi et d'autres parmi les grands savants. L'imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, est le premier à avoir composé un ouvrage dans la science des fondements de la jurisprudence. Et son livre est connu sous le nom de Ar-Risala. Et celui-ci a deux versions. Une version de Bagdad qui est l'ancienne et une version d'Égypte qui est la nouvelle, sur laquelle son madhhab a été fondé. Et l'imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, a excellé dans la science de la jurisprudence, et on rapporte de l'imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, qu'il disait de lui, « Al-Shafi'i est comme le soleil pour ce bas monde. » Il est mort, rahimahullah ta'ala, en l'an 204 de l'Hégire. Enfin, le quatrième des grands imams de l'islam est l'imam Ahmad, le grand savant de Bagdad, Abu Abdillah, Ahmad ibn Muhammad, ibn Hanbal al-Shaybani, rahimahullah ta'ala. Il est né en l'an 164 de l'Hégire. Il a grandi orphelin, sous les soins de sa mère, et a commencé l'étude de la science à 15 ans. Il a pris le hadith auprès des grands savants de son époque, comme Yahya al-Qattan, Waqi', Abdurrahman ibn Mahdi, Sofiane ibn Uyayna, Abdurrazzaq al-San'ani, et bien d'autres encore parmi les savants. De même qu'il étudia auprès de l'imam Shafi'i. Quant à ceux qui ont rapporté de lui le hadith, alors ils sont très nombreux. Il y a parmi eux Shafi'i, Abd al-Razzaq, Ali ibn al-Madini, Yahya ibn Ma'in, ainsi que les grands imams du hadith al-Bukhari et Muslim, Abu Dawoud, les deux Razi, Abu Hatim et Abu Zura, ainsi que ses deux fils, Salih et Abdullah, et son cousin, Hanbal ibn Ishaq, ainsi que bien d'autres parmi les grands savants du hadith. L'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, a été connu pour sa grande faculté à mémoriser les hadiths. C'est pour cela qu'il est devenu imam dans la science du hadith et imam dans la science du fiqh. L'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, fut mis à l'épreuve par trois califes abbassides, et ce au sujet d'une question liée à la croyance vis-à-vis du Coran, car ceci appelait à une croyance fausse et innovée. Imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, refusa de se soumettre à ce qu'ils attendaient de lui. Et il persista à soutenir la vérité et à dire que le Coran est la parole d'Allah incréée, malgré les nombreux préjudices qui lui ont fait subir. Il fut frappé, il fut emprisonné, il fut torturé, mais il resta ferme sur la vérité, rahimahullah ta'ala. Et ce jusqu'à ce qu'Allah lui apporte son secours sur le califat d'Al-Mutawakkil, qui mit fin à son épreuve et secourut la sunna et ses adeptes. En raison de sa patience face à cette épreuve, l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala fut surnommé l'imam des gens de la sunna. Certains ont dit à son sujet qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait grâce aux croyants en raffermissant l'imam Ahmed face à l'épreuve, sinon les gens seraient tous devenus mécréants. C'est-à-dire étant donné la renommée de l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala et sa fermeté face à cette épreuve, sa fermeté dans la défense de la vérité et dans la défense de la croyance authentique et sa proclamation, il fut la cause pour que les gens restent fermes sur cette croyance authentique, car ils l'ont pris pour modèle et pour exemple. Alors que si Allah subhanahu wa ta'ala ne l'avait pas raffermi et qu'il s'était soumis à cette épreuve, alors il se peut que nombre de gens l'auraient suivi, wallah al-musta'an. On voit donc à travers cela l'importance pour celui qui est pris pour modèle de rester ferme sur la vérité, quels que soient les préjudices qu'il peut subir. Et l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, a composé de nombreux ouvrages, et parmi eux, son célèbre recueil de hadith, Al-Musnad, imprimé en plus de 50 volumes. Et il est mort, rahimahullah ta'ala, en l'an 241 de l'Hégire. Donc bien entendu, ceci n'est qu'un aperçu de la vie de ces grands imams. Il n'y a pas de doute que leurs biographies sont remplies de bénéfices, très riches pour le croyant étant donné qu'ils font partie des vertueux, qu'il convient aux croyants de prendre pour modèle et pour exemple dans le bien et la piété. Et on voit à travers ce que l'on a mentionné que ces quatre imams se sont tous démarqués par leurs efforts dans la recherche de la science. En effet, la science, elle ne s'obtient pas par le repos du corps. Si tu veux apprendre la science, cela demande de toi des efforts. Tu ne pourras pas apprendre la science si tu passes tes journées dans la paresse et l'oisiveté. Tu ne pourras pas apprendre la science si tu passes ton temps à te distraire ou faire des choses futiles. Tu ne pourras pas apprendre la science si tu ne fais pas les efforts pour cela. Regarde ces imams comment ils ont voyagé pour la science. En Irak, au Yémen, à Médine, à la Mecque, et ainsi de suite. Et il ne faut pas penser que ces voyages étaient aussi simples que les voyages que l'on fait aujourd'hui. N'oubliez pas qu'ils n'avaient pas, à leur époque, les moyens de transport qui nous ont été facilités aujourd'hui. De même qu'ils n'apprenaient pas la science dans les mêmes conditions que l'on apprend aujourd'hui. À l'époque, certains faisaient des kilomètres pour apprendre un seul hadith. Il se peut que certains parmi les imams voyageaient des mois parce qu'ils savaient que dans telle contrée, il y avait un savant qui connaissait un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam que lui ne connaissait pas. Aujourd'hui, la science, elle nous a été facilitée. Les livres sont imprimés en des milliers d'exemplaires et disponibles dans toute contrée. Plus encore, la majorité de ces livres sont disponibles sur les moyens modernes comme Internet et autres. Les cours des savants sont enregistrés. Il est possible à la personne, de son domicile, de profiter de la science des plus grands savants de notre époque sans avoir à se fatiguer comme se sont fatigués ces imams. Malgré cela, le manque d'ambition, la paresse, les distractions, l'amour des biens vils de ce bas monde ont fait que beaucoup d'entre nous, sauf ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a fait miséricorde, se sont détournés tout en partie de l'apprentissage de la science. Il n'y a pas de doute que ceci est une des causes qui a mené la communauté dans la situation dans laquelle elle est aujourd'hui. Donc celui qui veut le bien pour sa personne, celui qui veut le bien pour son foyer, celui qui veut le bien pour sa famille et ses proches, celui qui veut le bien pour sa société, pour son pays, qu'il fasse des efforts dans l'apprentissage de la science authentique, puis dans la mise en pratique de cette science. Car c'est ainsi que la réforme commence. Tu commences par réformer ta personne, puis réformer ta famille, réformer tes enfants, réformer tes proches, réformer ton entourage, et ainsi de suite. Et c'est ainsi que la situation de la communauté va s'améliorer, bi'inillahi ta'ala. En commençant par le bas de l'échelle, chacun par sa propre personne, en faisant des efforts pour apprendre cette science, pour apprendre la science authentique, pour se réformer, pour suivre la voie de la droiture, suivre les pas du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, suivre les pas des pieux prédécesseurs, rahimahumullahu ta'ala, que ce soit dans le domaine de la croyance, dans le domaine de la jurisprudence, dans le domaine du comportement, dans le domaine des relations sociales, et ainsi de suite. Chacun d'entre nous, en fonction de ce qui lui incombe et en fonction de ses capacités. Et ainsi, on verra la situation de notre communauté s'améliorer, bi'idhnillahi ta'ala. Et c'est cela l'intérêt qu'il y a à prendre connaissance de la biographie des grands imams de l'islam. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont intéressées par les biographies, sont intéressées par la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la biographie des compagnons radiyallahu ta'ala anhum, la biographie des pieux prédécesseurs, et ainsi de suite. Il n'y a pas de doute que ces sujets sont des sujets attrayants. Mais lorsque tu apprends ces choses, lorsque tu lis des livres à ce sujet, ou que tu écoutes des cours à ce sujet, tu ne dois pas considérer ces informations comme de simples faits historiques. Mais tu dois prendre conscience que ces biographies, elles ont été recueillies, notées et enregistrées afin que ces hommes nous servent de modèles dans le bien et la piété, afin qu'on suive leurs traces, afin qu'on emprunte leur chemin. C'est cela l'objectif de l'étude ou de l'écoute ou de la lecture de ces biographies, et pas simplement des histoires que l'on lit pour passer le temps ou se distraire. Wallahu al-musta'an. Donc quoi qu'il en soit, comme on a dit, ces quatre imams, malgré leurs divergences dans nombre de questions de jurisprudence, ils étaient unanimes de manière générale sur les questions liées au fondement de la croyance. Et parmi ces questions de croyance, sur lesquelles ils étaient unanimes, il y a ces questions que l'on retrouve dans ce poème intitulé Al-Lamiyah, sur lequel je me suis basé afin de tirer la croyance de ces quatre imams, rahimahumullah ta'ala. Et le poème Al-Lamiyah, il a été appelé ainsi, car l'ensemble de ses vers termine par la lettre Lam, et ceci est quelque chose de très courant. Lorsqu'un poème est composé de vers qui terminent tous par la même lettre, alors il est appelé par le nom de cette lettre. À l'exemple de Al-Ha'iyah de l'imam Ibn Abi Daoud, dont l'ensemble des vers termine par la lettre Ha, ou alors Al-Nuniyah ou Al-Mimiyah de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, dont l'ensemble des vers termine respectivement par la lettre Noun et la lettre Mim, et ainsi de suite parmi les poèmes. Et ce poème Al-Lamiyah, il est composé de 16 vers, c'est donc un poème concis, qui expose certaines questions importantes liées à la croyance authentique, la croyance des gens de la sunna et du groupe, qui est la croyance des compagnons radiyallahu ta'ala anhum, mais également la croyance des quatre grands imams de l'islam de manière générale. Et l'auteur de ce poème, comme on l'a dit, est certainement Cheikh al-Islam Taqiyuddin Ahmed ibn Abd al-Halim ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Et ce car le manuscrit de ce poème a été trouvé au milieu de certains écrits et certains manuscrits de Cheikh al-Islam rahimahullah ta'ala. Et sur certains d'entre eux, on trouve écrit la croyance d'Ibn Taymiyyah. Mais certains parmi les gens de science s'abstiennent de dire qu'il est l'auteur de ce poème et de lui attribuer, et ce car son élève Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala ne l'a pas mentionné parmi les ouvrages de Cheikh al-Islam rahimahullah ta'ala. Et les gens de science ont dit que ce poème soit l'œuvre de Cheikh al-Islam ou d'autres que lui, ce qu'il contient n'est que vérité incha'Allah ta'ala, car ces vers exposent des questions de croyance basées sur les preuves du Coran et de la Sunna, comme on va le voir au cours de notre étude, bi'idhnillahi ta'ala. Et ce poème est un poème très court, comme on a dit, il est composé de 16 vers. C'est pour cela que celui qui en a les capacités, il lui convient de faire des efforts pour mémoriser ce poème, incha'Allah ta'ala. Également, c'est un poème qu'il convient de faire apprendre aux enfants en raison des questions liées à la croyance qu'il comporte et qu'il expose et qui sont des questions importantes qu'il ne convient pas aux musulmans d'ignorer. Ceci était donc une introduction à cette série de cours dans laquelle nous avons vu brièvement l'importance de ce sujet ainsi que la biographie de ces quatre grands imams rahimahumullah ta'ala et la présentation de ce poème que l'on commencera à lire et expliquer dans le cours de demain incha'Allah ta'ala. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم